Europe 1,
bien fait pour vous.
Julia Vignali et Mélanie Gomez.
Bonjour à toutes, bonjour à tous, bonjour Julia.
Bonjour Mélanie, bonjour à tous.
Bienvenue dans Bien fait pour vous, votre magazine bien-être dans lequel on décortique tous les aspects de notre vie quotidienne en direct jusqu'à midi. Alors ce matin, Julia, quel sera notre grand dossier du jour?
Eh bien Mélanie, on va tenter de challenger les signes de l'âge et on va se poser cette question: et si la science nous permettait enfin de rajeunir? Car cette préoccupation est de plus en plus répandue en France et dans le monde. Le 21e siècle sera celui du grisonnement. Alors est-ce inéluctable? Peut-être pas, selon quelques scientifiques de pointe. Ils considèrent désormais le vieillissement comme une maladie que l'on pourra soigner dans le futur. Alors justement, au-delà des fantasmes, où en est-on concrètement? La pilule de jouvence sera-t-elle bientôt sur le marché? On va faire le point avec Aline Richard, rédactrice en chef du Figaro Santé, notre partenaire sur ce dossier. Et puis plusieurs spécialistes et chercheurs seront également en ligne avec nous aujourd'hui.
Ensuite, à 11h45, ce sera notre séquence tendance. Il y aura d'abord encore du beau, du jeune, avec l'éclairage beauté de Benjamin Lévesque. Il nous parlera aujourd'hui de neurocosmétiques, ces nouveaux produits de beauté qui parleraient directement à notre cerveau. Il nous expliquera ce qu'il en est. Et puis on écoutera aussi la chronique de Perrine Bramy. Ce matin avec elle, on va tenter de comprendre une fois pour toutes ce qu'on entend par pollution numérique. Et on verra bien sûr comment être plus vertueux au quotidien de ce point de vue-là. Voilà, le programme bien fait pour vous, c'est maintenant.
Europe 1.
C'est bien fait pour vous, vous êtes sur Europe 1, bienvenue dans votre émission Bien-être Feel Good. Alors aujourd'hui, on vous propose une cure de jouvence, rien que ça. Notre question du jour, la voici: et si la science nous permettait enfin, en tout cas bientôt, de rajeunir? J'imagine que ça vous tente, Mélanie.
Bah évidemment, comme tout le monde, si on peut repousser le plus tard possible les stigmates de l'âge, je prends. Mais ce qui préoccupe principalement les gens, c'est surtout comment ils vont vieillir. En clair, l'important, c'est de vieillir sans décatir. Et sur ce point, je pense qu'on va vous donner vraiment les meilleures pistes pour y parvenir dès aujourd'hui, mais aussi dans le futur. De belles choses se profilent, on en parlera avec nos invités dans un instant. Mais avant ça, on va aller écouter ce qu'en pensent les Français dans la rue grâce à Clément Lanoux. Bonjour Clément.
Bonjour tout le monde. On dit souvent qu'on ne se voit pas vieillir. Alors, je vous rassure, il y a des petits signes quand même qui montrent qu'on vieillit. Parfois, c'est physique. Parfois, pas du tout. C'est la question que j'ai posée aux Français. Quel est le petit truc qui, selon vous, fait que vous êtes en train de vieillir?
Moi, c'est plutôt le relâchement de la peau. Même si on fait du sport, tout va vers le bas.
Ah si, la mode et tout ce qui est réseaux sociaux, l'ASMR, tout ça, je ne comprends pas du tout. Tous les trucs de jeunes, je ne comprends pas du tout. Donc là, je sens que j'ai vieilli.
Et oui, parfois on est largué, on se dit tiens, il y a une nouvelle génération. Et au-delà du physique, effectivement, quand on a la vingtaine ou la trentaine, je vous rassure, ça nous arrive aussi de se sentir un peu largué, un peu vieux, quoi.
Bah, typiquement, disant la phrase « Oh là là, quand j'étais plus jeune, alors que j'ai que 23 ans ».
On remarquait que les draps étaient chers et je me suis dit « Ah ouais, j'ai pris un petit coup de vieux, là, je rentre dans le monde d'adulte, en fait ».
Eh oui, quand à 25 ans, ta passion, c'est le prix des draps, c'est que tu vieillis. Et puis, j'ai demandé à cette petite fille, justement, à quoi elle voit que sa maman vieillit.
Elle dit tout le temps qu'elle a des cheveux blancs.
Ah, les enfants sont formidables.
Moi, elle me dit que j'ai des grosses fesses.
Voilà, bah c'est bon curseur pour voir le temps passer, les enfants, finalement. Alors, justement, comment les parents essayent de rester jeunes? Car ils font des efforts pour paraître jeunes. C'est quoi leur technique?
Moi, c'est-à-dire qu'elle écoute du Joule, elle met du TN. C'est-à-dire qu'elle écoute plus de rap que moi. Elle s'habille peut-être mieux que moi, mais si, elle fait plus jeune que moi, à la limite.
Bah, en fait, ma mère, c'est juste qu'elle essaye, mais elle n'y arrive pas trop. C'est-à-dire qu'elle va essayer de parler comme mon petit frère qui, du coup, au collège maintenant, mais ça marche pas forcément. Ça, c'est bien, on rigole bien du coup, mais voilà.
Wesh, Julia, t'écoutes du Joule.
Mais ils aiment pas ça, hein, les ados qu'on essaie de passer pour des jeunes.
Et non, justement, alors comment, je vais poser la question aux enfants, justement, à quoi, selon vous, on reconnaît quelqu'un qui est vieux, selon eux?
Bah, quand tu commences à avoir des rides.
Quand t'as les cheveux blancs.
Quand t'as un prénom composé, genre Jean-Luc, Jean-Pierre, Jean-Martin.
Quand il manque de dents, il a un dentier et il a plus de dents du tout.
Quand il te demande de remettre genre le téléphone, la wifi, etc. Parce qu'il comprend rien.
Et oui, si vous demandez de remettre la wifi parce que vous êtes largué, apparemment, vous êtes vieux. Rassurez-vous, on a dans cette émission tous les conseils, les vrais, pour rester jeune.
Eh bien, merci Clément Lanoux. On va à présent détailler les choses et surtout vous révéler les secrets et les solutions déjà à notre disposition pour être peut-être bientôt guérir la fameuse vieillesse. Pour nous éclairer sur le sujet, Aline Richard est avec nous aujourd'hui en studio. Bonjour Aline.
Bonjour.
Alors, vous êtes rédactrice en chef du Figaro Santé, notre partenaire aujourd'hui. Et justement, le dernier numéro qui sort cette semaine est consacré à ce sujet. On va retrouver quoi dans les grandes lignes, dans ce dossier?
Alors, le dossier rajeunir, qui est le Graal, n'est-ce pas, pour chacun et chacune d'entre nous, est un dossier qui fait vraiment le point sur ce qui est nouveau et intéressant dans ce qu'on peut appeler la médecine anti-âge. Mm-hmm. C'est-à-dire, effectivement, qu'est-ce qu'il faut faire pour, sinon rajeunir, en tout cas, stopper les signes du vieillissement. Et là, on parle à la fois de nouvelles molécules, mm-hmm. de nouveaux médicaments, on parle de mode de vie, on parle d'influence, l'influence de la génétique, l'influence de l'environnement. Donc on essaye de faire vraiment une vision un peu globale de ce problème et apporter des solutions. Parce qu'il y a une chose importante à dire, c'est que ce Figaro Santé est le premier d'une nouvelle formule, et une nouvelle formule qui est résolument orientée solution. Donc solution pour ne pas vieillir et pour rajeunir.
Ça fait rêver. Aline, est-ce qu'on sait déjà à partir de quel âge, finalement, on considère vraiment qu'on vieillit, que la jeunesse, c'est fini et que l'organisme, il est, on va dire, mature et qu'il entame gentiment son déclin, on va dire.
Alors, ce qu'on sait tous, et c'est une boutade, c'est qu'on vieillit à partir du moment où on pousse son premier cri, n'est-ce pas, hein, à partir de là, bah, c'est enclenché, vous allez vieillir. Plus, de façon un peu plus rigoureuse, les scientifiques estiment aujourd'hui que 25 ans est un âge où on a fini l'enfance et l'adolescence, où on entame l'âge adulte et donc on entame un certain déclin qui est à la fois physiologique, hein, mm-hmm. sur nos organes, notre peau, on connaît bien les signes de l'âge sur la peau, mais aussi psychique, avec un cerveau qui fonctionne un tout petit peu moins bien qu'avant.
Mais encore une fois, 25 ans, ouais.
Ce n'est pas inéluctable. Il y a vraiment des moyens de faire autrement.
Mais d'ailleurs, dans le Figaro, vous dites que la jeunesse, c'est aussi dans la tête. Si on se sent jeune, c'est pas une vue de l'esprit, mais le cerveau est vraiment physiologiquement plus jeune.
Mais absolument, c'est très étonnant. C'est vraiment ce champ passionnant qui est le lien entre la psyché et le physique. En fait, quand on se sent jeune dans sa tête, quand on a 20 ans jusqu'à 80 ans, en fait, on s'aperçoit, les scientifiques s'aperçoivent quand ils font des IRM qui photographient le cerveau, ils s'aperçoivent qu'il y a chez ces gens-là, une matière grise, hein, qui est une matière qui structure les zones du cerveau, qui est plus importante.
Ah bon, étonnant. Bah, sentons-nous jeunes, alors hein, c'est important. Autre chose qu'il faut savoir, c'est que parfois on se sent vieux, hein, mais surtout après 50 ans, tout simplement parce qu'on dort très mal. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ça?
Oui, c'est ce qu'ont remarqué aussi les médecins et les cliniciens, c'est-à-dire que quand vous faites une mauvaise nuit, bah, vous vous réveillez, vous avez l'impression d'être plus âgé. Alors c'est un ressenti, hein, c'est un ressenti, ça n'a rien de physiologique là pour le coup, mais ça pèse sur votre morale et du coup ça enclenche de mauvais mécanismes. C'est une espèce de cercle vicieux. Quand vous avez pas le moral, bah vous avez tendance à moins bien vous occuper de vous, voyez, à pas faire attention à ce que vous mangez, à vous goinfrer un petit peu trop de sucre, etc. Ouais, et vous vieillissez.
Dites-moi, là je suis pas 36 et apparemment qu'on se sente jeune ou âgé, il paraît que les quinquas sont nombreux à tricher un peu quand on leur demande leur âge. Mais quoi, nous, 10 ans, sérieux?
Et oui.
C'est vrai?
Oui, oui, tout à fait, ça m'a fait beaucoup rire. Moi qui suis dans la tranche d'âge.
Vous avez quel âge, vous?
Moi, j'ai 59 ans.
Donc vous avez 49, en fait.
Voilà, c'est ça. Et alors, il paraît que nous trichons. Nous trichons beaucoup quand on a 50 ans ou quand on a 59. On dit qu'on est un petit peu plus jeune.
Non, mais 10 ans, c'est beaucoup, quand même.
10 ans, c'est beaucoup. Et alors, c'est pas pour tout le monde 10 ans. Ouais. Disons, et puis il faut que ce soit un peu crédible, si vous voulez. Alors, ce qui est rigolo, c'est qu'avant, on triche pas. Avant 50 ans, on triche pas.
On assume.
On assume. Et après 80 ans, on triche pas.
Oh, non trop plus. Bien. Merci Aline et vos 49 printemps, Julia et vos 36.
Moi, j'ai 36 ans,
Mélanie. Ouais, merci à toutes les deux, vous restez avec nous. On va continuer notre quête de la jeunesse éternelle. Enfin, au moins des solutions actuelles ou à venir pour rajeunir. Et il y en a pas mal. En plus, vous verrez que plusieurs molécules ou approches sont déjà à l'essai, certaines déjà chez l'homme. Et donc, des chercheurs nous promettent même un cocktail anti-âge vraiment efficace d'ici seulement 10 ou 15 ans. On va faire le point dans un instant. Alors, restez bien à l'écoute d'Europe 1.
Europe 1, bien fait pour vous. Mélanie Gomez, Julia Vignali.
De retour dans Bienfait pour vous, votre émission Feel Good Mieux Vivre. Et ce matin, on s'interroge autour de cette question. Et si la science nous permettait enfin de rajeunir? On en parle notamment avec Aline Richard. Je rappelle que vous êtes rédactrice en chef du Figaro Santé, notre partenaire sur ce dossier. Alors, quand on parle de rajeunir, on pense déjà forcément à notre apparence et au progrès de la médecine et de la chirurgie esthétique. Et ça, je crois que les Français ont bien compris son intérêt, et d'autant plus avec le Covid.
Oui, il y a eu un phénomène tout à fait intéressant. Il y a eu une augmentation des demandes de rendez-vous de médecine esthétique de 20 à 30% durant l'année 2020.
Donc, durant le Covid, enfin après
durant le Covid. Est-ce que c'est lié? Est-ce que c'est parce que, en fait, on avait un peu de temps pour penser à soi?
Vous pensez que c'est ça?
Peut-être.
On s'est beaucoup regardé dans la glace.
Aussi, et peut-être de l'argent, puisqu'on n'a pas pu le dépenser pendant les confinements. Mm-hmm. Et puis du temps.
On s'est retrouvé avec son conjoint et on s'est regardé droit dans les yeux.
Chérie, il serait temps de s'y mettre.
C'est peut-être ça. Alors Aline, aujourd'hui, il n'y a pas que les personnes d'ailleurs d'un certain âge qui ont recours à la chirurgie esthétique, et certains médecins encouragent même les gens à utiliser ces techniques de plus en plus tôt. De quel âge, à partir de quel âge, en fait, si on veut prévenir les rides, il faudrait commencer?
En fait, il faudrait commencer à la trentaine, des petites injections pour prévenir les rides en quelque sorte. Et nous avons interrogé plusieurs médecins du domaine qui insistent sur le fait que plus on s'y prend tôt, alors attention, vous n'allez pas y aller à 15 ans, mais à partir de 30 ans, c'est une bonne idée. C'est une bonne idée pour encore une fois prévenir les rides et leur aggravation.
Ne pas agir trop tard, quoi, voilà. C'est ça. Bon, d'ailleurs, vous faites une mise en garde contre les fake injectors dans le Figaro Santé. De quoi s'agit-il, ça?
Alors, c'est très important à dire à nos auditeurs et à nos auditrices. Sur Instagram, vous avez des tas de propositions qui sont censées être d'un bon rapport qualité-prix pour vous faire des injections d'acide hyaluronique ou de Botox. Mais les gens ne sont pas formés, les conditions d'hygiène n'y sont pas. Donc vous risquez des infections, voire pire. Mmh.
Donc ça veut dire que si on fait des injections, c'est chez un médecin esthétique
Absolument.
Ou un chirurgien esthétique.
Absolument.
Bon, on va passer au vieillissement de tout l'organisme à présent. De plus en plus de médecins, de chercheurs abordent de la vieillesse comme une maladie globale. On va en parler avec Jean-Marc Lemaître. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes directeur de recherche INSERM de l'Institut de médecine régénératrice et de biothérapie de Montpellier. Alors, la vieillesse, c'est une maladie ou pas? Est-ce que vous pensez qu'on pourra la guérir?
Alors, depuis quelques années, effectivement, de nombreux laboratoires et chercheurs ont identifié un certain nombre de dénominateurs communs à l'ensemble des pathologies liées à l'âge. Et on s'aperçoit maintenant, finalement, que probablement, eh bien, il y a un véritable changement de paradigme, c'est-à-dire que la vieillesse de nos cellules pourrait être considérée comme une maladie, et que finalement, toutes les pathologies que l'on connaît, liées à l'âge, que ce soit le diabète, l'ostéoporose, l'arthrose, les maladies neurodégénératives, finalement, pourraient être une conséquence de cette mère des maladies qui est effectivement la vieillesse.
Bon, et donc qui dit maladie dit potentiel traitement. On apprend dans le Figaro Santé que la course mondiale aux molécules anti-âge est ouverte. D'ailleurs, certains pensent même à détourner certains médicaments qui existent déjà pour nous faire rajeunir. C'est le cas de la metformine, si je ne me trompe pas. C'est un antidiabétique qui est très connu. Comment ça pourrait fonctionner?
Alors, en fait, on s'est rendu compte qu'effectivement, ce médicament qui était un antidiabétique, eh bien, lorsqu'il était donné à des patients diabétiques, eh bien, parmi ces personnes, on observait qu'il y avait moins de cancer. Et puis, finalement, il a été aussi testé sur des modèles animaux, et on s'est rendu compte que ça améliorait la longévité de ces animaux en bonne santé. Et on s'est rendu compte que la metformine activait, en fait, des mécanismes cellulaires qui étaient ceux qui étaient activés lorsque on effectue une restriction calorique, hein, c'est-à-dire qu'on diminue un peu le nombre de calories dans la journée, soit globalement, soit en faisant une sorte de jeûne intermittent, c'est-à-dire où on sautait un repas dans la journée. Et donc ces voies qui sont enclenchées, c'est à la fois des voies qui répondent au stress cellulaire, et puis un certain nombre de voies comme l'autophagie, qui est une voie qui permet de recycler tous les composés altérés pour en refaire des composés plus fonctionnels.
D'accord. Alors la metformine, on l'a compris, c'est quand même encore en expérimentation, on ne sait pas ce que ça donnera à terme chez l'homme, mais est-ce que ça signifie que même peut-être sans médicaments, si moi je me prive peut-être demain un peu de nourriture en vieillissant, je mange moins, est-ce que je vieillirai mieux et moins vite?
Alors oui, ça c'est assez bien démontré. C'est-à-dire qu'on voit par exemple le régime méditerranéen qui au-delà de manger des aliments un peu spécifiques, hein, qui sont un petit peu différents d'autres régimes, malgré tout on mange un peu moins et on a un nombre de calories par jour qui est diminué. C'est le cas aussi par exemple de l'île d'Okinawa où qui est bien connue pour ses centenaires et qui ont une tradition, c'est-à-dire de sortir de table avec avant la satiété.
Donc on devrait tous faire un petit peu ça peut-être.
Oui, voilà, et on estime que on a à peu près 30% de calories en moins qui sont ingérées par ces personnes. Et effectivement, ils vivent beaucoup plus longtemps en bonne santé et ils ont le record des centenaires sur la planète.
Je crois que vous voyez en tout cas plus la solution, vous, pour l'avenir, vers un cocktail anti-vieillesse sur mesure qu'on prendrait tous à partir d'un certain âge. Et ce cocktail, bah, il pourrait fonctionner comment? Il contiendrait quoi, imaginons?
Eh bien, en fait, l'essentiel, si on veut pouvoir considérer la vieillesse comme une maladie, ce qu'il faudrait, c'est vraiment de l'évaluer. Aujourd'hui, on peut calculer sur une prise de sang l'âge physiologique. Donc, en fonction de ça, bien sûr, on pourrait déterminer un cocktail qui permettrait de contrecarrer visiblement ces pathologies liées à l'âge, puisqu'on a des dénominateurs communs. Il y a déjà un certain nombre de molécules qui sont à l'essai pour essayer justement d'améliorer les pathologies qui sont liées à l'âge.
Vous avez réussi sur des souris, hein, je crois. Les souris, ça fonctionne pas trop mal, ce vaccin anti-vieillissement.
Alors sur les souris, ça fonctionne non seulement très bien, puisqu'ils gagnent 30% de vie en bonne santé, mais c'est à l'essai chez l'homme en ce moment, aux États-Unis, sur des pathologies liées à l'âge, comme l'arthrose, la fibrose pulmonaire et d'autres pathologies. Et l'idée, bien sûr, ce serait de pouvoir prendre ces molécules avant même que la pathologie soit là. Hein, si on considère la vieillesse comme une maladie, eh bien il faut la prévenir, il faut faire de la prévention. Et ces petites molécules pourraient être des molécules de prévention qui permettraient à nos tissus de rester jeunes plus longtemps.
Bon, bah, dès que vous aurez mis au point le petit cocktail, n'hésitez pas à nous envoyer un petit échantillon. Julia et moi, on sera là pour tester. Merci beaucoup, Jean-Marc Lemaître, d'avoir été avec nous. Et je signale bien sûr votre livre sur le sujet « Guérir la vieillesse » chez Humaine Science. Merci.
Au revoir.
Au revoir. Aline Richard, je reviens vers vous. On vient d'évoquer la piste de la restriction calorique, moins manger pour mieux vieillir. Est-ce qu'on sait si le jeûne intermittent, par exemple, serait une sorte de pilule anti-âge?
Alors, il faut rester quand même un peu prudent, d'autant plus que j'ai lu hier une étude là-dessus sur le jeûne intermittent qui dit qu'en fait il y a pas tellement de bénéfices. Hein.
Ah mince.
Ce qu'il y a c'est ce que dit Jean-Marc Max. Il faut faire attention à ce que nous mangeons, éviter effectivement de prendre des kilos avec des nutriments qui sont pas des bons nutriments. Ça peut marcher parce que sinon si vous avez une bonne hygiène de vie, en somme bon c'est pas révolutionnaire ce que je dis mais malgré tout, c'est la réalité. Si vous avez une bonne hygiène de vie, effectivement, in fine, vous consommez moins de calories et c'est bon pour votre jeunesse.
Et on vit plus vieux, mais de là, moi, ce que je voudrais, c'est vivre entre 120 et 150 ans, par exemple. Est-ce que ça sera bientôt possible? Il y a des enquêtes qui ont été menées hein, auprès de centenaires ou de super centenaires. Est-ce qu'on a réussi à percer leurs secrets?
Et non. Ils ont pourtant tout essayé, les chercheurs. Ils ont posé la question de l'alimentation, de l'environnement, du sport, etc., etc. Et il n'y a pas de figure générale qui s'impose. Hein. Oui. Alors, donc on ne sait pas, et je ne sais pas si on saura un jour.
Comment vivre? Mais alors d'ailleurs, c'est une question que je me suis toujours posée. Est-ce que vous pensez qu'il y a un âge maximum jusqu'où on peut vivre, nous, l'espèce humaine?
Alors, c'est une des grandes questions de la science, hein, la question de l'âge limite. Alors, je vais vous raconter une anecdote. Il y a quelques années, enfin il y a maintenant pas mal d'années, j'avais fait un dossier sur cette question dans un mensuel scientifique qui s'appelle La Recherche, et on avait titré « Vivre 120 ans ». Aujourd'hui, c'est 150. C'est-à-dire que le consensus scientifique estime que la durée de vie maximale d'un humain sur cette planète et de 150 ans. Alors, c'est un peu au doigt mouillé, il faut l'admettre.
Ah oui, parce que personne n'a vécu jusque-là.
Mais si
là,
vous voulez, quand même, entre 120 et 150, ça fait une vraie différence.
Ça fait deux vies, en
fait. Ça fait absolument. Donc, c'est vraiment une question qu'on ne sait pas y répondre. La seule chose, c'est qu'effectivement, ça va plutôt dans le bon sens, si je puis dire.
Dans le sens de la durée.
Dans le sens de la durée.
Eh bien, merci beaucoup. On va poursuivre cette mission du jour. comment rester jeune très tard dans notre existence, c'est-à-dire vieillir, oui, mais plutôt en ressemblant à Jane Fonda qu'à Jeanne Calment. On vient de faire un point sur les pistes de recherche, mais on va maintenant passer aux solutions déjà à notre disposition. Notre ordonnance anti-vieillissement, celle que vous pourrez mettre en pratique dès demain, elle arrive dans quelques minutes sur Europe 1, donc je vous le conseille, ne bougez pas.
Europe 1, bien fait pour vous. Mélanie Gomez, Julia Vignali.
Vous écoutez Europe 1, c'est bien fait pour vous, soyez les bienvenus si vous nous rejoignez. Et si la science nous permettait enfin de rajeunir, c'est notre question du jour. Et on tente d'y répondre notamment avec vous Aline Richard. Je rappelle que vous êtes la rédactrice en chef du Figaro Santé, notre partenaire sur ce dossier. Alors quand on vieillit, on le sait, hein, nos articulations s'usent et peuvent d'ailleurs nous faire souffrir. Mais dans le Figaro Santé, vous évoquez une piste qui permettrait de stopper cette usure. C'est comme un pansement articulaire, c'est ça ?
Oui, c'est un pansement articulaire très, très, très particulier et très spécifique puisqu'il est, en gros, il faut s'imaginer un tissu qui serait tissé de nanofibres. Donc les nanofibres, c'est vraiment
tout petit.
C'est très 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 petit et qui pourrait donc être placé sur l'articulation défaillante, et on mettrait un espèce de gel avec les cellules souches du patient, et ça permettrait réellement de régénérer l'articulation.
C'est
ce qui est très intéressant. Parce
et ça marche
que...
déjà sur les genoux de brebis et
alors
chez l'homme quand
on
alors
on a testé chez la brebis avec des très bons résultats et ça devrait pouvoir arriver peut-être dans les années qui suivent, peut-être dans les mois, puisque c'est déjà quelque chose qui existe en Asie, notamment en Corée où c'est expérimenté.
Génial.
c'est encore expérimenté.
Aline, il y a un autre focus anti-âge que vous faites dans le Figaro. Vous alertez sur le fait que notre cerveau, c'est un organe qui s'use lui aussi quand on ne s'en sert pas. On s'en était aperçu avec Mélanie, mais c'est quoi les solutions ?
La solution, c'est de le faire travailler.
Et comment ?
Oui, et alors, il faut le faire travailler et pas être flemmard, si vous voulez. Alors, il faut, parce que vous pouvez bouquiner, aller au musée, c'est super et ça nous intéresse tous.
Mais c'est pas assez, ça ?
C'est pas assez, non, c'est pas assez. Il faut essayer de se rappeler des choses. Il faut rappelez-vous donc de votre numéro de téléphone.
C'est
votre
difficile.
Code carte bancaire. Essayez de vous auto-challenger, si je puis dire. C'est-à-dire posez-vous des questions un petit peu difficiles. Voilà, ça va vous faire du
apprenez
bien.
Apprenez des poèmes, même si on le fait plus normalement à un certain âge. Mais justement, je crois que le déficit, il serait lié aussi aux méthodes actuelles d'enseignement, non ? Peut-être.
Alors,
expliquez-nous.
Il faut faire un petit peu attention à ça, hein, parce que effectivement, on dit beaucoup quand on apprenait par cœur, on faisait fonctionner son cerveau. Oui et non. Si vous voulez, oui, parce qu'il y a un effet un peu mécanique. Enfin, si vous apprenez quelque chose par cœur que vous ne comprenez pas, je pense que ce n'est pas très, très positif. Non, je pense que l'effort intellectuel doit être pratiqué par chacun d'entre nous, selon aussi nos goûts et nos intérêts.
Bien sûr, du moment qu'on fait bouger notre cerveau. Alors justement, pour parfaire notre ordonnance anti-âge, nous avons un spécialiste en ligne. C'est vous, docteur Antoine Piau. Bonjour.
Oui, bonjour.
Vous êtes gériatre au CHU de Toulouse et l'auteur du livre « Quand je serai vieux, tout ira bien » chez Hachette. Alors ce qu'on vient de dire sur le cerveau, j'imagine que vous confirmez que votre premier conseil pour bien vieillir, c'est d'éviter la routine, dites-vous.
Oui, absolument. Donc comme on l'a dit, un organe dont on se sert pas s'use, et c'est valable pour le cerveau également. Et de fait, c'est vrai qu'on se rend compte que les personnes âgées ont parfois tendance à réduire leur environnement social, et on sait pourtant que le nombre d'interactions sociales et leur qualité sont clairement bénéfiques pour le vieillissement.
Votre deuxième conseil pour bien vieillir, c'est de sortir de chez soi, de s'intéresser encore plus au monde extérieur que lorsqu'on était jeune peut-être, et ça passerait par quoi justement ?
Mais c'est vrai que si on reste les fesses sur son canapé, a priori, il ne va pas se passer grand-chose. Et en fait, quand on est jeune, on est sociabilisé de fait, de force. On doit aller à l'école, on doit aller travailler, on doit faire un apprentissage, étudier. On est toujours dans un bain bouillonnant sans arrêt. Donc, on nous pousse pour marcher, pour discuter. Et quand on est plus âgé, on restreint tout ça. Et potentiellement, si on ne fait rien, il ne se passe absolument rien.
Alors, docteur Piau, votre prescription anti-âge, elle passe aussi par la table et par le fait de cuisiner. Et cuisiner, ça fait d'une pierre trois coups vers la jeunesse. Dites-vous, pourquoi trois coups ?
Oui, complètement. Donc, vous avez vu, je ne vous promets pas de pilule miracle. Moi, je suis un petit peu plus réaliste. Donc, effectivement, cuisiner, c'est bien. C'est bien parce que déjà, on va choisir des aliments. Donc, on va choisir des choses plus saines que des plats tout prêts qui, généralement, ne sont pas très bons nutritivement. Mais en plus, de fait, c'est une activité qui stimule le cerveau parce que ça demande de savoir gérer une recette, des cuissons, etc. Donc, d'une part, on mange sain. D'autre part, on stimule son cerveau. Et en plus, il y a un aspect convivialité qui peut emmener à manger avec d'autres gens. Et ça, c'est hyper important pour le cerveau. Et ça peut paraître moins sérieux qu'un médicament, qu'une pilule, mais en réalité, la science, elle est plutôt du côté de ce type d'action que du côté des pilules. Mais parfois, la science, on n'aime pas trop la regarder en face.
Autre conseil, bon, alors celui-là, nous, on le donne souvent dans cette émission, mais c'est de marcher. Et ce qui compte, vous dites, c'est le temps qu'on y consacre. Est-ce que vous pouvez nous préciser un petit peu ?
Oui, le temps et surtout se fixer des objectifs atteignables. C'est vrai que la prévention taille S ou XS pour tous, ça ne marche pas, quoi. Autrement dit, dire à tout le monde marcher 10 000 pas, ça n'a aucun sens. Il y a des gens qui marchent déjà 10 000 pas par jour, mais c'est très bien, continuer. Et ceux qui marchent 200 pas, il faut en faire 400 et ça sera magnifique. Donc, il faut marcher un petit peu plus que ce que vous faites, essayer de progresser, mais se fixer des objectifs atteignables. Et de fait, marcher, ça évite de chuter, ça évite d'avoir des troubles de la mémoire, ça évite des maladies cardiovasculaires. Donc, ça n'a que des effets bénéfiques, y compris sur l'humeur et le sommeil. Et ça, c'est pas un détail.
Mais j'allais vous dire, docteur, les personnes très âgées sont parfois sur la retenue à l'idée de bouger à cause justement de la peur de la chute. Alors ça veut dire qu'il faut aller contre ça ?
Tout à fait, ça c'est paradoxal, c'est-à-dire on se rend compte que moins les gens marchent et plus ils chutent parce qu'en fait ils se désadaptent de la marche, ils ont une fonte musculaire, ils ont les réflexes neurologiques qui se dégradent et de fait plus on marche paradoxalement moins on est à risque de chute. Donc de fait c'est une contre-vérité.
Merci beaucoup docteur Piau d'avoir répondu à nos questions ce matin. Plaisir. Aline Richard, on vient de parler des bienfaits de l'activité physique pour bien vieillir, donc la marche en l'occurrence, mais je crois que vous en parlez dans le magazine, hein, les méthodes du type pilates, le yoga, le tai chi, elles ont elles aussi pas mal d'avantages, lesquelles ?
Oui, en fait, l'idée, c'est d'éviter la fente musculaire, hein, qui est tout à fait, le docteur vient de le dire, qui est tout à fait néfaste et qui nous fait tomber, etc. etc. La fente musculaire, ça peut commencer assez tôt dans la vie. Hein, il faut, quand vous êtes complètement
46 ans à peu près, Julia. Attention,
c'est bon, moi, je soulève des poids, moi.
Voilà, très bien, bravo.
Il faut faire ça, non, sérieux ?
Mais il faut s'entretenir.
Et faire un peu de musculation, hein, c'est ça.
On peut faire de la muscu, on peut aller en salle de sport, ou on peut aller courir un petit peu, faire ce qui nous convient et ce qui nous plaît. Et alors, il y a une autre chose qu'on raconte dans le Figaro Santé, qui est une chose importante, qui n'est pas souvent justement dite, notamment vous allez à la salle de sport, c'est la souplesse. C'est-à-dire qu'il faut travailler en souplesse. Vos muscles ont besoin non seulement d'être entretenus, mais d'être souples parce que, par exemple, ça va vous éviter d'avoir trop mal au dos.
Quand donc vous le vous yoga, pencherez, tout ça, c'est vachement bien.
Le yoga, pilates, gymnastique, ce qu'on aime, le tai chi, etc.
Donc il faut les étirer,
Faut rester souple, notamment pour les hommes qui sont en général moins souples que nous, les femmes. C'est quelque chose qui est très important, qui n'est pas souvent dit.
Et le stress, hein, j'ai l'impression que c'est un autre secret pour
c'est
bien vieillir.
Clé. Oui. C'est une clé. Hein.
Alors comment
c'est
on fait pour le maîtriser
à tout âge. Alors ça, c'est quand même pas facile, vous le savez, comme moi. C'est vraiment, vraiment un facteur de vieillissement très important.
Ah oui, ça épuise notre capital jeunesse.
Ça nous épuise ce qu'on appelle le stress chronique. Attention, pas un stress qui peut être bénéfique d'ailleurs pour vous concentrer. Voilà, vous entrez en studio, vous êtes un peu stressé, ça va vous permettre d'être un peu plus focus. Mais le stress chronique est quelque chose qui use le corps, qui use. Vous êtes en état d'alerte permanente, c'est vraiment terrible. Et ça, il faut essayer de s'en déprendre un peu. Il faut essayer de prendre un peu de distance. Alors chacun peut essayer différentes choses. On peut essayer la méditation, on peut essayer la relaxation. On peut en parler avec un professionnel. On peut essayer de faire des choses. Puis alors je vais vous dire, on est au printemps, il fait beau. Bah sortez, allez vous balader, respirez et pensez à des choses agréables.
Et puis procurez-vous d'urgence le dernier numéro du Figaro Santé qui sort cette semaine et que vous pourrez retrouver dans tous les bons kiosques. Merci beaucoup Aline.
Merci.
Merci d'avoir été à nos côtés ce matin pour cet éclairage. Et je rappelle que pour en savoir plus sur ce qui fonctionne ou qui fonctionnera bientôt, eh bien, il y a le Figaro Santé Mélanie. On va maintenant passer à la séquence tendance de bienfaits pour vous. Il y aura d'abord Benjamin Lévesque qui nous propose un focus sur la neurocosmétique ou comment certains produits de beauté s'adressent directement à notre cerveau. Et puis, il y aura aussi la chronique de Perrine Bramy. Elle va nous expliquer ce qu'est la pollution numérique et surtout comment la limiter dans notre quotidien. Tous ces bons conseils, c'est dans très peu de temps sur Europe 1.
Europe 1, bien fait pour vous.
Julia Vignali et Mélanie Gomez.
Vous êtes sur Europe 1, de retour dans Bienfait pour vous. Nous sommes en direct avec vous jusqu'à midi pour vous faciliter la vie. Alors à présent, on va ouvrir notre tour de table des tendances. Il y a déjà Perrine Bramy qui est avec nous en studio. Bonjour Perrine.
Bonjour.
Alors aujourd'hui, on va lutter contre une pollution encore trop mal connue. Laquelle ?
La pollution numérique, Julia. Il n'y a pas si longtemps, vous me demandiez hors antenne pourquoi envoyer des mails, regarder des photos, etc. Ça polluait. Ben, je vais tout vous expliquer et surtout, je vais vous donner des conseils pour limiter cette pollution numérique.
Très intéressant. Bon, vous restez avec nous Perrine. Ce sera à vous dans quelques minutes. On va commencer cette séquence avec Benjamin Lévesque. Bonjour Benjamin.
Bonjour les filles.
Alors Benjamin, vous nous dites ce matin que nos cosmétiques ne servent plus uniquement à embellir nos visages, mais aussi à nous procurer du plaisir.
Ah oui, c'est ce qu'on appelle la neurocosmétique. C'est la dernière tendance et très certainement le futur de la cosmétique. Le concept, il est né fin des années 90, début 2000. Et c'est en fait dans ces années que l'on a découvert la présence de nerfs dans la peau, dans l'épiderme. Mais ça va même plus loin puisque les chercheurs en fait ont montré par la suite que la peau et le cerveau sont formés en même temps, 21e jour de l'embryon. Et il y aurait comme ça une relation privilégiée entre notre peau et notre cerveau, ce qui pourrait d'ailleurs expliquer l'expression « avoir les nerfs à fleur de peau ».
Ah ouais, j'y avais jamais pensé. Donc si les cellules de la peau communiquent avec le cerveau, ça veut dire qu'une crème peut agir sur notre système nerveux ?
Oui, les chercheurs et l'industrie cosmétique travaillent maintenant sur l'analyse sensorielle. On regarde en fait ce que vous ressentez quand on applique cette crème ou l'autre, et pour produire en fait celle qui vous procure le plus de plaisir. Et c'est comme le dirait le président de la cosmétothèque, Jean-Claude Lejolif, la naissance de la cosmétique joyeuse.
Quand vous allez appliquer quelque chose sur la peau, eh bien, elle va produire tout un tas de substances qui peuvent avoir des effets qui sont un petit peu plus lointains, si vous voulez, justement, en provoquant la sécrétion de certains types de substances, comme ces endorphines. Et puis, il y a le moment dans lequel les choses se passent. Et on voit bien, si vous voulez, des études ont montré que quand on met le doigt dans un pot de crème, eh bien, s'allume dans la tête tout un tas de choses favorables qu'on appelle globalement le circuit de la récompense. Et donc, à partir du moment où vous activez le circuit de la récompense, vous sentez mieux.
Qu'est-ce qui peut nous rendre heureux dans une crème, concrètement, Benjamin ?
En fait, on va vous donner du plaisir d'abord à l'aide d'ingrédients. On va rajouter dans ces crèmes des peptides, donc des petites molécules qui ont, par exemple, des propriétés relaxantes et qui vont, une fois dans la peau, être capables d'envoyer un message jusqu'au cerveau en passant justement par ses nerfs pour relaxer notre humeur. Il y a déjà des marques qui ont lancé leurs produits. Guerlain a été l'un des premiers en sortant la crème Happy Logi, Happy Heureux, donc une crème qui vous rend heureux. Chez Lancôme, on peut trouver aussi la gamme Hydrazen, là aussi gorgé de ces ingrédients qui produisent des endorphines. Et puis d'autres marques un peu plus accessibles comme Heidi Swiss Botanicals qui rajoutent dans leur crème du CBD encapsulé, et ce qui lui permettrait bien de relaxer notre système nerveux.
C'est ça votre secret, Julia ? Pourquoi vous êtes toujours de bonne humeur ? Je comprends mieux. Vous
mettez beaucoup de crème. Moi, je prends des tisanes de CBD, ça me fait un bien fou. Est-ce qu'il n'y a pas quand même, malgré tout, un effet placebo ?
Oui, c'est finalement l'un des grands principes de la neurocosmétique. On a parlé du CBD, qu'on le veuille ou non, le CBD s'est associé au cannabis. Et le cannabis, c'est bien, qu'est-ce que ça vous évoque pour vous les filles ?
Zen, cool,
ouais, le calme, détente. Voilà. C'est de la drogue, c'est mal.
Ça évoque aussi Bob Marley. Mais l'apaisement, le calme. Donc, si vous mettez une crème avec du CBD, vous allez vous apaiser de vous-même. Et puis, les marques vont aussi travailler sur la texture d'une crème, sa couleur. Tiens, c'est pas pour rien que la plupart de crèmes sont blanches, parce que ça évoque l'hydratation, tout comme le bleu. Et puis, le rose, au contraire, c'est la douceur. C'est pour ça qu'il y a des crèmes dépilatoires roses, c'est parce que un petit peu de douceur.
On va passer la pilule.
De souffrir. Et puis, il y a le packaging, à la couleur de l'emballage. Et puis, le contenant, le pot de crème transparent, nous permet de voir la crème, de plonger nos doigts dedans. Et tout de suite, on se dit, je vais me faire du bien. Et donc, on sécrète des endorphines.
Moi, quand j'ouvre ma crème, c'est surtout l'odeur qui me procure de la gaieté. Je sais pas, ça peut jouer, non ?
Ouais, ça joue. Les marques de cosmétiques vont utiliser des senteurs bien spécifiques qui vont produire chez nous un plaisir passager. Alors, une euphorie qu'on peut retrouver, par exemple, dans les soins de la marque De Cléor. Leur slogan, c'est Skin and Mind, la peau et l'esprit. En fait, ils rajoutent des huiles essentielles dans leur crème. Alors, pas n'importe lesquelles, celles qui agissent sur l'humeur. Ce sont bien souvent des fleurs, la fleur d'oranger, très antidépressive en aromathérapie. Vous avez la lavande, très connue comme étant apaisante. La racine d'iris, très utilisée en parfumerie pour son effet agréable et doux. Et puis forcément, les agrumes, synonyme de bonne humeur. Donc, des crèmes qui nous font du bien au moral, mais c'est dans les deux sens. Puisque, comme le dit la docteure en pharmacie Françoise Quick-Marinier, en étant de bonne humeur, on améliore aussi notre du visage.
Justement, ces cosmétiques, en agissant sur le système olfactif qui est notamment au niveau du nez, va nous permettre de nous relaxer. Du coup, on va relâcher aussi au niveau des traits du visage lorsqu'ils sont tendus. Par contre, si on a cet effet bonne humeur, on va avoir l'ovale du visage qui se reforme avec un petit sourire. Donc, ça nous permet aussi de remonter tout ça et quelque part de raffermir simplement en ayant de la bonne humeur dans la tête et donc sur le visage.
Alors, pour finir, on va faire un petit test, les filles. Je vous ai rapporté donc une crème de la marque De Cléor à base d'huile essentielle de mandarine verte. Et oui, ça, alors, vous êtes toutes les trois très jolies, mais je me dis qu'on peut en vous rendre encore plus belles. Donc, il faut l'appliquer en fait au creux de la main. Vous la faites un petit peu chauffer et ensuite vous sentez avant de l'appliquer. Oui. Voilà, vous ressentez tout de suite un
vous aimez Périne,
ça sent bien. Oh là là, je pourrais en manger.
C'est vrai, hein.
Et donc, ce sont souvent des crèmes qui sont appliquées le soir dans des baubes de nuit parce que bah, ça permet de se coucher avec le sourire. Et puis, surtout, comme ça apaise, eh bien, on dort mieux.
Ah, bah c'est super.
Ça vous apaise, Julia? Vous aimez cette odeur de mandarine verte là?
C'est vrai, super, hein. Oh là là, je prends un shoot là. Merci Benjamin pour cet éclairage beauté très intéressant. On va passer maintenant au bon conseil écolo de notre chère Périne Bramy. Périne, alors vous nous invitez à faire le grand ménage de printemps, mais un ménage numérique pour lutter contre la pollution liée à nos appareils, que ce soit les téléphones ou les ordinateurs, par exemple.
Désolée de vous le dire, hein, il va vraiment falloir s'y mettre parce que la pollution numérique, elle est responsable de 4% des émissions de gaz à effet de serre dans le monde et ça va doubler d'ici 2030 parce que nous, autour de la table et probablement aussi ceux qui nous écoutent, on utilise de plus en plus d'appareils connectés. Alors, selon l'ADEME, hein, l'Agence de la transition écologique, nous, Français, possédons chacun 15 appareils connectés en moyenne.
C'est possible, ça.
On n'y croit pas, mais finalement, quand on fait le compte...
Sur la famille, les différentes tablettes, les ordinateurs.
La télévision, les tablettes.
Je suis un bon élève, alors.
On a très bien, bravo, je vous félicite. Eh bien, ces 15 appareils, c'est plus que la moyenne mondiale, donc on a du boulot, nous les Français. Et chaque donnée numérique que nous utilisons, par exemple, quand on envoie un mail ou qu'on télécharge ou qu'on fait même une simple requête sur Google, eh bien, cette donnée, elle parcourt 15 000 km en moyenne. J'ai calculé 15 000 km, hein, je me suis demandé. Eh bien, c'est Paris, Cuba... Cuba, Paris, ça fait quand même une sacrée distance hein, pour envoyer un mail à son collègue de travail.
Il va quand même nous expliquer d'où elle vient cette pollution.
Bah oui, alors cette pollution, elle vient d'abord et en premier des appareils eux-mêmes. Hein. Dès leur fabrication, par exemple, nos smartphones, tablettes et autres ordinateurs, eh bien, ils polluent déjà avant même qu'on les ait utilisés. Pour produire une télévision, par exemple, il faut extraire 2,5 tonnes de matières premières, ce qui génère 350 kg de CO2, c'est-à-dire autant que si vous alliez à Marrakech en avion, par exemple. Et ça, c'est quand on ne l'a même pas encore utilisé.
Ah oui.
Et ça pollue pourquoi ? Parce qu'il faut extraire des métaux qu'il compose. L'extraction dans des conditions écologiques et sociales qui sont parfois dramatiques. Hein. On a entendu parler des enfants qui travaillent dans certaines mines. Mais aussi pollution pour les assembler, ces appareils, sur le lieu de fabrication. Et ensuite, eh bien, les transporter jusqu'à nous qui les achetons.
Donc, du coup, c'est logique, Périne. La première chose à faire, c'est d'acheter moins d'appareils.
Oui, ça, c'est la première chose et la plus efficace. On achète moins, on achète mieux des appareils éco-responsables. On a parlé hein, dans une précédente chronique du Fairphone, le téléphone équitable. C'est une bonne solution. Le reconditionné, hein, qui sont les appareils de seconde main, c'est une autre solution très, très intéressante et qui a un vrai impact. Un smartphone reconditionné, ça pollue 4 à 5 fois moins qu'un smartphone neuf.
Ça coûte 4 à 5 fois moins cher.
Et voilà, au niveau du bilan carbone. Donc, on achète moins, on achète mieux, mais aussi on répare plus dans les Repair Café, par exemple.
On en a parlé avec Cécile Coumeau la semaine dernière,
et
justement.
Oui, un indicateur qui peut vous aider, c'est cet indice de réparabilité qui a été mis en place l'an dernier pour les smartphones, les ordinateurs portables et télévisions. C'est une note sur 10, hein, cet indice, qui figure obligatoirement sur le descriptif des appareils pour informer les consommateurs sur la démontabilité ou encore la disponibilité des pièces détachées. Ceux qui ont un bon indice, c'est-à-dire en gros supérieur à 8, eh bien ces appareils auront une meilleure durée de vie. C'est donc vers eux qu'il faut aller.
Bon, et Périne, on fait donc attention à notre matériel, mais il y a aussi du ménage à faire dans nos usages.
Oui, l'utilisation hein, qu'on fait de ces appareils et du numérique joue aussi beaucoup, à commencer par la vidéo. C'est le streaming qui représente la plus grande pollution. C'est 60 à 80% des données qu'on échange sur Internet. Et d'ailleurs, avec les confinements, ça s'est accentué. On a consommé de plus en plus de vidéos. Un film comme Pulp Fiction, par exemple, hein, qui a une durée de 2h30 en 4K, c'est-à-dire en très haute définition sur Netflix, ça pèse 10 gigaoctets. 10 gigaoctets, c'est l'équivalent de 300 000 mails qu'on envoie. Évidemment, bon, j'ai rien contre Pulp Fiction, c'est un film que j'adore. Mais tout ça pour vous dire que, pour vous expliquer pourquoi une vidéo pollue sur Netflix ou sur YouTube, par exemple, j'ai posé la question à Rémi Maron, qui est le directeur de projet à l'Institut du numérique responsable.
Une vidéo pour être lue du coup sur nos ordinateurs, elle est stockée quelque part dans le monde dans un data center, et une donnée qui est stockée dans un data center, elle peut avoir l'air d'être dormante, mais en réalité il faut toujours qu'elle soit disponible pour pouvoir revenir sur l'ordinateur de quelqu'un qui voudrait pouvoir y accéder. Et donc le fait qu'elle soit finalement toujours disponible forcément nécessite qu'elle soit toujours alimentée en électricité, et donc forcément qu'il y ait une consommation énergétique qui soit effective.
Mais Perrine, c'est pareil pour les emails ou les photos qu'on stocke dans les clouds ou nos boîtes mail ?
C'est exactement le même principe, mais dans des proportions un peu moindres. Alors du coup, le conseil pour ce coup de clean numérique, parce que c'est ça qui est intéressant, eh bien moi, je vous suggère de supprimer les messages que vous avez déjà lus. On peut également vider régulièrement la corbeille de l'ordinateur. On se désabonne des newsletters inutiles, ça on le sait tous, hein, on en reçoit parfois trop. Donc on se désabonne quand on ne s'en sert pas. Et au bureau, si vous devez partager un fichier avec des collègues, par exemple, eh bien on le fait plutôt sous forme de lien plutôt que de pièces jointes, ça pollue moins.
Les WeTransfer là, c'est ça, c'est
exactement
mieux que...
D'accord. Et alors c'est comme ça qu'on peut limiter son transfert de données, parce que on considère qu'au-delà de 3 échanges de mails, eh bien c'est plus efficace de se parler soit en direct au téléphone, soit par messagerie instantanée. Et concernant la vidéo, hein, dont on parlait tout à l'heure, qui est le principal souci, écoutez la reco d'Alexis Chailloux, responsable engagement citoyen chez Greenpeace France.
Un conseil assez facile à mettre en œuvre, c'est de baisser la résolution de nos vidéos. En fonction de l'écran qu'on va avoir, parfois une résolution moyenne, voire basse, va être largement suffisante pour regarder une vidéo. Si jamais vous êtes sur votre smartphone, pas besoin d'utiliser de la HD, vous ne verrez même pas la différence.
Et avec ces recommandations, tous ces petits conseils, vous libérerez en quelques jours très facilement 150 gigas de données. Vous pouvez d'ailleurs retrouver plein d'infos pour faire encore mieux et encore plus et des conseils dans un guide qui est publié par l'ADEME qu'on trouve sur Internet et qui s'appelle « En route vers la sobriété numérique ».
Mais c'est génial, j'adore Perrine, j'ai enfin compris ce qu'était cette pollution numérique et je m'aperçois que quand on est maniaque, comme moi, finalement...
Vous videz tout le temps votre boîte
mail.
Mais
tout le temps, Benjamin, vous êtes sobre numériquement ou pas?
Bah non, moi j'ai un téléphone portable et j'ai un PC, c'est tout. Donc c'est déjà bien, du coup les 15 appareils là.
C'est vrai que 15, j'ai du mal à imaginer. Ouais. C'est vraiment une moyenne.
Et vous m'envoyez jamais de mail. Donc
jamais.
Ça, c'est super.
On se parle en vrai.
Merci beaucoup, Perrine, de nous avoir ouvert les yeux sur cette pollution numérique qui nous paraissait tellement abstraite jusque-là. On sait maintenant comment mieux agir grâce à vous. Voilà, merci à tous d'avoir été à nos côtés ce matin. Bien fait pour vous, c'est terminé pour aujourd'hui. Mais nous serons évidemment de retour demain dès 11h. Julien, on va s'intéresser à quoi demain?
Alors justement, demain, on va s'intéresser à un sujet qui me passionne, vous le savez. C'est l'organisation. Et on va se demander s'il faut être organisé pour être heureux. Moi, je peux déjà vous dire que la réponse est oui, mais on va vous donner toutes nos astuces pour mettre de l'ordre dans votre vie. En attendant, place à l'info sur Europe 1, car à suivre, c'est Europe Midi avec vous, Romain Desarbres. Quel est le programme?
Le programme d'Europe Midi, évidemment, ça va être les résultats de la présidentielle. On va les décortiquer, ces résultats. Enfin, ce résultat, Emmanuel Macron réélu avec 58,5% des voix. Est-ce que vous êtes satisfait? Est-ce que vous ne l'êtes pas? Est-ce que vous êtes déçu? Vous nous appelez au 3921. On va en parler. On sera également avec Prisca Thévenot de La République En Marche et avec Philippe Ballard du Rassemblement National.
Merci beaucoup Romain, à tout de suite.
À tout de suite.